Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à tous. Le difficile exercice de la modération, c'est le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme musique électroacoustique et art libre et une chronique sur PeerTube. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte la liberté informatique. Proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission affaires publiques pour l'April. Le site web de l'April est april.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes le mardi 4 mai 2021, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, Adrien. Salut Adrien.
Salut.
Nous vous souhaitons une excellente écoute et que la force soit avec vous.
Cause commune, la voix des possibles. 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Alors, nous allons commencer par la chronique Le Libre fait sa com, proposée par ma collègue Isabella Vanni, responsable de vie associative pour l'April. Isa, je te passe la parole.
Merci, bonjour. Dans la chronique Le Libre fait sa com d'aujourd'hui, nous allons parler de musique électroacoustique et art libre. Et nous le ferons avec Adrien Bourmont, bénévole à l'April et aussi étudiant en composition instrumentale et électroacoustique. Étienne s'est rendu disponible pour remplacer Adrien à la régie le temps de cette chronique. Merci à Étienne. Bonjour Adrien, je te propose de commencer par nous expliquer ce que c'est la musique électroacoustique. Personnellement, je ne connaissais pas avant de découvrir ton morceau sur SoundCloud. Déjà, je pense important de préciser que dans musique électroacoustique, l'adjectif électroacoustique est écrit tout attaché, car électroacoustique avec un tiret au milieu indique autre chose.
Alors oui, déjà bonjour. Effectivement, la musique électroacoustique, c'est un peu un genre à part entière. C'est un genre à part entière. Et le mot électroacoustique ici n'est pas l'adjectif qui veut dire... ça ne veut pas forcément dire uniquement que ça utilise des techniques électroacoustiques. Électroacoustique avec un tiret, c'est par exemple ce qu'on peut dire d'une guitare électroacoustique, c'est-à-dire qu'elle utilise des transducteurs, qu'elle a besoin d'électricité pour fonctionner. La musique électroacoustique, certes, ça met en jeu des techniques électroniques, mais c'est plus que ça. C'est d'abord de la musique concrète.
Ça veut dire quoi, concrète ? Pourquoi tu utilises cet adjectif ?
Alors, la musique électroacoustique, c'est un grand genre vaste, qui est né dans les années 40. En France, l'émergence de l'électroacoustique, c'est Pierre Schaeffer. C'est en fait une façon de concevoir la musique comme le traitement du son, le traitement de la matière sonore, sans réfléchir à qu'est-ce qui a produit le son, mais en faisant quelque chose. C'est-à-dire que je peux enregistrer, le bruit d'un train, le son d'une vague... Le chant des oiseaux et en faire quelque chose d'autre, parce que c'est pas la chose qui a produit le son qui est importante, c'est ce que j'en fais au final. C'est pour ça qu'on parle de musique concrète.
On peut dire un petit peu que les enregistrements que tu fais sont comme tes notes ou tes briques dans la composition.
Oui, ça peut être ça. En fait, tout son, toute matière sonore est une brique. On n'a plus besoin d'utiliser l'échelle tonale, on n'a plus besoin d'utiliser de gamme. En fait, notre gamme, c'est le son en lui-même et en général.
Il n'y a pas besoin d'utiliser de tonalité, donc c'est quoi le rôle de la... Est-ce qu'il y a un rôle pour la mélodie dans cette musique ?
Alors justement, non. La musique électroacoustique n'a pas besoin de se focaliser sur les mélodies. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'en utiliser. Mais la mélodie, c'est pas l'important. Ce qui est important, c'est ce que je vais faire de ma matière sonore. Ça peut être simplement une progression, ça peut être une sorte d'organisation de mouvement. Ce qui va m'intéresser, c'est faire quelque chose d'intelligible, qui ait un sens, qui ait une structure, afin de provoquer quelque chose, parce que c'est de la musique, mais de provoquer quelque chose chez l'auditeur. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va faire une mélodie, ça veut juste dire qu'on va faire quelque chose de musical à partir de quelque chose de plus vaste qu'une simple mélodie.
Donc même s'il n'y a pas de mélodie ou de rythme, on peut toujours parler de musique, parce que comme tu disais, il y a un début, une fin et une progression. Est-ce qu'on peut dire que c'est comme raconter une histoire ?
Ça peut ressembler à une histoire d'ailleurs. Moi je pense que dans mes compositions, je raconte une histoire.
D'accord. Et tu parles d'enregistrement, c'est quoi la différence entre les enregistrements que tu utilises dans ta musique électroacoustique et par exemple les samples qui sont utilisés dans la musique électronique ?
Alors, ça, c'est pas le cas de tout le monde, mais la tradition française, la musique électroacoustique, c'est un petit peu le utiliser et enregistrer soi-même pour réaliser quelque chose et ensuite en faire une musique sur support, parce que l'électroacoustique, c'est de la musique sur support. Moi, pour mon œuvre Persifles, j'ai été enregistré des sons. J'ai aussi utilisé des enregistrements de personnes que je connais, de mon entourage artistique. Et j'en ai fait une œuvre. J'ai pas été acheter des samples ou j'ai pas été les chercher sur un site.
D'accord, donc, c'est parfait parce que ça me permet de te poser la question, tu l'as déjà anticipé, comment tu te relations avec la musique électroacoustique, comment tu te prends, tu viens de le dire, tu as l'habitude d'aller chercher toi-même, par toi-même, donc c'est un peu la culture do it yourself, fais-le par toi-même, des sons qui peuvent t'intéresser, en faire des enregistrements. Comment tu es tombé dans le chaudron de la musique électroacoustique ?
Alors c'était un peu par hasard, c'est que à ce moment-là j'étais étudiant en formation musicale, en DEM de formation musicale, et je devais faire un atelier pour une matière d'instrumental, parce que j'étais en piano, en option piano, et il fallait que je fasse un atelier, et donc je suis tombé dans un atelier électroacoustique un peu par hasard, puis très rapidement mon professeur qui s'appelle Alain Gonard, qui nous écoute sûrement d'ailleurs, je le salue chaleureusement, il m'a fait découvrir un univers que je ne connaissais pas. Et qui m'ouvrait plus de possibilités que simplement la composition instrumentale ou la formation musicale. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait que je fasse de la composition, et donc j'ai commencé par faire de la composition électroacoustique.
D'accord, donc ça a commencé par l'intérêt pour la technique, et puis c'est devenu une passion, et oui. tu as eu envie de composer. Et je sais que tu as choisi de publier tes compositions sous licence libre. Donc je voulais savoir pourquoi ce choix et si c'est cohérent avec ta démarche envers la musique et envers l'informatique en général.
Oui, alors simplement ça c'est parce que pour moi c'était évident. C'est pas forcément évident pour tout le monde, je suis d'accord, mais la musique que je compose, évidemment il y a de la technique qui est derrière, c'est une œuvre, ce que je fais ce sont des œuvres musicales, mais ça veut pas dire qu'elles sont ma propriété unique et personnelle. Tant qu'on attribue mon travail, ça ne me pose pas de problème. C'est pour ça que j'ai choisi d'utiliser la licence CC BY SA, donc Creative Commons, attribution et partage dans les mêmes conditions, parce que je considère que tant que mon nom est cité si on utilise mon travail, ça me va, et tant que ça reste libre, ça me va encore mieux.
Oui, et ça c'est share alike, donc ouais. Distribué dans les mêmes conditions. Tu nous as dit que malheureusement tu as dû abréger ton morceau Persifles aujourd'hui, tu peux nous dire pourquoi ? Il était vraiment très long ?
Alors oui, parce que ça c'est aussi un truc qui est propre à la musique électroacoustique, c'est que ça va être rarement des petits morceaux. C'est un peu comme quand vous écoutez, une grande symphonie, quand vous écoutez une grande symphonie de Beethoven ou de Mahler, vous n'allez pas leur demander de faire un truc de 4 minutes. Ils vont composer quelque chose qui a des grandes progressions, qui va avoir beaucoup de choses à dire. La musique électroacoustique, étant donné le vaste genre que c'est, a beaucoup de choses à dire. Énormément de choses à dire. On peut faire beaucoup de choses. Hein. Imaginez que la musique électroacoustique, c'est un petit peu comme je prends tous les sons possibles, j'ai tous les sons possibles à ma disposition. Je peux faire un peu toutes les variations que je veux. Je peux même faire des thèmes extrêmement longs et fournis. Je peux dire beaucoup de choses. Et donc, comme je suis très bavard, j'écris forcément beaucoup.
Ça reflète, en fait, ta personnalité. Et donc, je vous propose d'écouter donc, la version abrégée de Persifles d'Adrien Bourmont, alias Neox. Donc, c'est son alias aussi pour ceux qui aiment de la musique. En espérant que ça vous donne envie d'aller écouter la version complète qui est disponible sur SoundCloud. Vous trouvez la référence, bien évidemment, sur le site de l'April dans la page consacrée à l'émission. Je vous souhaite une très bonne écoute.
Cause commune 93.1.
là.
C'est dommage. C'était sûrement la plus belle prestation de la journée. Vous avez tout raté.
Là, tout n'est qu'ordre et beauté. Tout n'est qu'ordre et beauté. Tout n'est qu'ordre et beauté.
Voilà. Ben voilà.
Ah bah. Ah
Oui, oui, je sais qu'il y a de la souffrance, merci. J'avais dit que ça se passerait mal.
Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas, vivre ensemble, aimer à loisir, aimer au pays.
Tout n'est qu'ordre et beauté.
Là, tout n'est qu'ordre et beauté.
Alors, nous venons d'écouter un extrait de Persiflore par Adrien Bourmeau, disponible sous licence Creative Commons, partage dans les mêmes conditions, CC BY SA. Persiflores, excuse-moi Adrien, surtout que tu l'avais déjà dit juste avant. Donc merci à toi d'avoir partagé avec nous ta démarche, ta musique, et puis d'avoir repris les manettes de la régie.
Eh bien, merci à vous de m'avoir proposé cette invitation.
Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur le délicat et difficile exercice de la modération. Et j'ai le plaisir de recevoir pour en discuter par téléphone Benoît Cibot, qui est directeur de publication du site linuxfr.org et membre de son équipe de modération. Et Anna, membre et modératrice au sein de Framasoft, et notamment pour leur instance Mastodon, l'instance Framapiaf. Alors n'hésitez pas à participer à notre conversation, soit au 09 72 51 55 46, vous retrouverez le numéro sur le site de la radio, ou sur le salon web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm, donc bouton chat. Alors normalement, voilà, nous sommes avec Benoît et Anna, bonjour à vous deux, est-ce que vous êtes bien avec nous ?
Oui, bonjour.
Bonjour, ouais, oui c'est bon.
Parfait. Eh bien, écoutez, je vous propose de commencer de manière, somme toute, très classique pour que nos auditeuristes sachent d'où vous parlez. Est-ce que vous pourriez vous présenter personnellement, ainsi que la structure que vous représentez, Benoît ?
Alors, le site linuxfr.org, c'est un site web par et pour les communautés du libre en général. On publie des contenus pour relier l'actualité des autres projets. Donc, il y a un site web. Derrière, il y a une association. Moi, je suis le directeur de publication du site. Je suis plus particulièrement concerné par les questions de modération. Et je fais partie de l'équipe du site en général. Et donc, je travaille aussi bien sur les aspects techniques que sur la production de contenu, que sur la modération, que sur divers sujets liés au site.
Entendu. Et du coup, pour peut-être rentrer dans quelques détails qui vont être, je pense, déterminants pour bien comprendre la suite de nos échanges, est-ce que peut-être tu peux nous en dire un tout petit peu plus voilà, sur le type de contenu notamment que vous allez être amené à modérer? Est-ce que, donc, en gros, c'est un site communautaire, tu me corrigeras, où des personnes, moi je le fais notamment dans le cadre de Libre à vous, on peut proposer des dépêches, les gens vont pouvoir venir les commenter. Voilà, quels sont les types de contenus que vous êtes amené à modérer?
Le site fonctionne sur un principe de 100% de bénévoles. Donc, les contenus sont écrits par nos visiteurs. Et derrière, il y a une équipe de bénévoles qui va aider à la rédaction de ces contenus pour aider à comprendre comment fonctionne le site, rajouter des informations, mettre des liens, rajouter des étiquettes, etc. Faire de la mise en page, entre guillemets. Et une équipe qui va gérer la modération, pour gérer et la publication et après la publication. Et c'est les visiteurs qui vont venir, qui vont commenter et qui vont éventuellement enrichir les contenus de manière générale. Donc, tous les contenus viennent des visiteurs et les contenus sont de diverses natures. Le contenu classique d'origine du site, c'était des actualités sur le logiciel libre, donc un projet, une association vient parler de son actualité. Et donc, elle va écrire son contenu et l'envoyer chez nous sur le mixer.org pour publication. Il est aussi possible d'écrire un contenu à plusieurs, par exemple, imaginons que des gens se regroupent pour décider de parler de quels sont les logiciels qui existent pour faire du graphisme en libre. Ils vont co-rédiger ensemble un contenu pour évoquer les différents logiciels qui existent et ils vont le faire dans notre espace de rédaction qui permet de faire une rédaction collaborative. Ça sera là aussi publié sous forme d'une, qu'on appelle une dépêche, une actualité. Et puis après, il y a des contenus qui sont plus personnels, qui ressemblent plus à une entrée dans un blog, donc quelque chose de plus personnel, où les visiteurs, pareil, peuvent parler de leur projet. Ils peuvent aussi évoquer des choses qui sont plus personnelles. Par exemple, ils peuvent dire « j'aime pas ce projet-là » ou « j'aime beaucoup ce projet-là » pour des raisons qui me sont personnelles. Où ils vont parler aussi potentiellement de sujets complètement annexes. On a souvent des sujets qui sont en dehors en dehors du libre, qui sont abordés dans certaines parties du site. Donc ça, c'est des catégories de contenu. On a aussi une partie qui concerne des liens, juste pour partager un lien. On partage simplement un lien. Et il y a aussi des choses pour avoir des questions et des réponses dans des forums et faire des sondages pour poser une question, obtenir des réponses et sonder un peu la communauté du site. Donc, suivant les situations, on a des contenus qui sont publiés sans modération sans modération a priori, ou publiés avec une modération a priori. Et dans tous les cas, il y a une modération a posteriori, aussi bien sur les contenus eux-mêmes que sur certains aspects indirects, comme les images qui peuvent être embarquées dans les contenus, ou les étiquettes qui peuvent être posées sur les contenus, par exemple.
Entendu. Donc on voit effectivement une grande variété de contenus différents. C'est un site qui est très riche. Si vous ne connaissez pas l'unixfr.org, on y trouve beaucoup d'informations. Effectivement, on sent, peut-être qu'on y reviendra d'ailleurs, une vraie communauté qu'il y a derrière. Et on voit déjà effectivement donc la grande variété de contenus modérés. Et je pense que ça aussi, on y reviendra, le fonctionnement 100% bénévole qui n'est quand même pas anodin, notamment j'imagine quand on parle de modération. Merci beaucoup Benoît. Alors Anna, toi tu es membre de Framasoft, tu es modératrice au sein de cette association. Et notamment, alors je le disais, et pour l'instance Framapiaf, donc l'instance Mastodon. Alors tu nous diras si tu modères aussi, si tu es responsable peut-être de modération sur autre chose. Mais je veux bien que tu te présentes, que tu nous rappelles en quelques mots quelle est l'association Framasoft et voilà quel est le rôle de la modération, rôle pardon pour la modération au sein de cette association.
Oui, alors moi je suis membre bénévole de l'association. Framasoft, c'est une association, on dit d'éducation populaire aux enjeux du numérique et des communs culturels. Donc bon, une fois qu'on a dit ça, c'est un peu vaste, mais notamment ce qu'on fait, c'est qu'on propose beaucoup de services libres pour montrer que c'est possible. Et donc parmi tous ces services, il y a des choses qui permettent de faire du travail collaboratif et il y a des choses qui permettaient, par exemple, de partager des images. Donc on peut parler de modération. Et puis, jusque récemment aussi, on a commencé à développer des outils, notamment un outil qui s'appelle Peertube qui permet d'héberger des vidéos. Et si on ne propose pas forcément d'instances ouvertes au public, et donc la question de la modération se pose moins, on propose un index qui répertorie tous les sites qui propose des vidéos grâce à PeerTube. Donc là, il y a un peu une sorte de modération. Et enfin, on propose deux services qui sont des réseaux sociaux, qui sont Mastodon et Despo, enfin, et il y avait Diaspora, et je crois que on a fermé récemment puisqu'on est en train de fermer des services. Et moi, si jamais je suis dans le comité de modération, donc je vois beaucoup de choses passer, je suis principalement sur Framapiaf, du coup, notre instance du réseau social Mastodon.
Ok. Alors, ça n'a rien à voir avec notre sujet, mais tu as mentionné quelque chose qui me paraît quand même très important et qui peut effrayer peut-être des personnes qui écoutent. Effectivement, Framasoft a une démarche de fermeture de service, mais qui est une démarche très positive. On mettra le lien en référence où Framasoft décrit très clairement toute sa démarche et que je vous invite franchement à aller lire. C'est très intéressant aussi sur comment on pense peut-être un réseau fédéré, décentralisé. Désolé pour cette parenthèse et merci de cette présentation. Alors, on voit bien que la modération n'est pas que pour Framasoft, ne concerne pas que le réseau social, donc Framapiaf, en ce qui concerne Mastodon. Mais on imagine bien que les enjeux de modération sont assez spécifiques par rapport à Framapiaf. Est-ce que tu saurais peut-être, donc du coup, nous parler un petit peu qu'est-ce qu'une instance Mastodon, qu'est-ce que Framapiaf, et notamment voilà dans cette logique de décentralisation qui doit avoir, on imagine, des effets sur la possibilité, enfin sur la question de la modération.
Oui, avec plaisir. Alors justement dans la lignée de fermeture des services, en fait Framasoft a commencé à avoir beaucoup de visibilité. Il y a plein de gens qui venaient chez nous et qui trouvaient ça super. Et nous on est un peu embêtés parce que du coup on veut pas grossir pour pas qu'il y ait trop de gens qui viennent que chez nous, et donc on a commencé à essayer de mettre en place un réseau d'autres acteurs, bon, qui s'appelle les chatons, qui sont des hébergeurs, qui sont des copains en gros. Et donc du coup l'idée c'est que les personnes elles peuvent venir soit chez nous, mais soit chez d'autres personnes. Et donc dans cette idée un peu d'avoir un réseau d'acteurs qui ont les mêmes valeurs et la même éthique, et donc de décentraliser pour pas que tout le monde soit chez la même personne, on peut retrouver le fonctionnement du réseau social Mastodon. Donc Mastodon, c'est un réseau de sites, on peut dire, enfin de sites qui sont des petits réseaux sociaux, mais qui sont connectés les uns aux autres. Ce qui fait que moi, je peux habiter chez Framapiaf, mais vous pouvez habiter dans une autre instance. Par exemple, il y a des instances bretonnes, il y a des instances queer, il y a des instances dédiées aux jeux de société, et vous pouvez vous inscrire sur cette autre instance, cet autre site. Et on peut quand même interagir ensemble, ce qui est assez peu courant dans le fonctionnement des réseaux sociaux, en tout cas les réseaux sociaux centralisés comme on connaît les plus gros. Et ce qui pose plein de problématiques assez spécifiques, parce que par exemple, quelque chose qui est autorisé chez vous ne sera pas forcément chez moi et inversement. Donc ça peut être quelque chose par rapport à la légalité. Il y a des instances japonaises qui autorisent des types de contenus que on ne peut pas autoriser sur la législation française, je pourrais y revenir, mais juste aussi parce qu'en fait vous mettez bien les règles que vous voulez chez vous parce que vous êtes chez vous, et donc si jamais vous voulez pas d'un certain type de contenu parce que ça vous semble inadapté, par exemple qu'est-ce que je pourrais présenter, on a possibilité de flouter certains types d'images par exemple. Donc on peut dire sur mon instance, chez moi, je voudrais que tous ces types d'images soient floutés. Donc ça peut être les photos de nourriture ou les photos de choses qui peuvent faire un peu peur comme les photos d'araignées, en disant comme ça les personnes sur mon instance elles savent qu'elles ne seront pas confrontées à des photos d'araignées. Et moi je peux dire tu fais ces règles-là chez toi si tu veux, mais moi j'autorise les photos d'araignées, et donc ensuite du coup ça va poser beaucoup de questions sur comment est-ce que, alors que chez toi c'est autorisé et chez moi c'est pas autorisé, on réussit à faire quand même des liens, ou à décider que en fait il faut qu'on coupe nos liens parce que de toute façon ça me dérange que chez toi ces photos elles soient visibles et pas chez moi. Bon là je parle des photos d'araignées, vous aurez bien compris qu'il y a plus de subtilité, on pourra y revenir.
Oui, on voit effectivement l'enjeu, et c'est intéressant sur un réseau fédéré, ça devient vraiment une question de politique et d'échange et très une question très riche du coup. J'en profite également dans une logique de déframasoftisation, puisque tu as évoqué un peu cette idée-là. Si vous souhaitez par exemple vous créer un compte sur Mastodon, vous pouvez donc aller sur Framapiaf chez Framasoft, vous pouvez venir à l'April, on a également une instance sur le Chapril, donc chapril.org, et vous vous avez comme ça tout un ensemble d'instances où vous pouvez vous inscrire en respectant à chaque fois effectivement la charte de modération. Je pense que celle de l'April et de Framasoft sont différentes, mais sans doute assez proches dans l'éthique. Alors, je voulais vous proposer un exercice qui n'est pas forcément évident, mais en gros, si vous deviez présenter en quelques mots ce qu'est la modération, quels en sont les enjeux. En gros, vous rencontrez quelqu'un comme ça, qui vous pose la question, c'est quoi la modération ? En quelques mots, comment vous lui feriez sentir justement que c'est un sujet qui est important, qui est politique, où il y avait vraiment des enjeux derrière et que c'est pas juste une question technique. Comment vous lui présenteriez la chose, Benoît ?
Sur un site, par exemple, il y a ce que tu voudrais avoir et ce que tu veux vraiment pas avoir. Ce que tu voudrais avoir, c'est par exemple, j'aimerais bien avoir des contenus plus étoffés, plus jolis, plus complets, etc. Ça reste entièrement à ta main. Tu peux contribuer, aider, etc., mais ça relève, tu peux contribuer à ça. Par contre, il y a ce que tu veux vraiment pas avoir, et ce que tu veux vraiment pas avoir, ça va être ce pourquoi tu as besoin de modération. Dans l'idéal, tu aimerais bien ne pas avoir de modération à faire. Si tu pouvais te passer d'avoir une équipe de modération, ça serait idéal. Mais en fait, tu as besoin de la modération pour plusieurs cas assez différents. Il y en a un, c'est qui est facile à comprendre. On n'a pas envie d'avoir des pubs partout, d'avoir du spam, d'avoir des gens qui viennent placer des liens qui n'ont aucun rapport avec le site ou qui viennent communiquer des choses qui ne sont même pas dans la langue des utilisateurs du site. Et donc là, c'est vraiment de la pure pollution qu'on cherche à enlever. Donc, on aimerait bien ne pas avoir à l'enlever, mais il y en a, donc il faut des gens pour l'enlever. Après, il y a une autre chose qu'on veut pas, c'est on va vouloir rester dans le cadre de la loi. Donc on est contraint, donc pour les mixeurs.org, on est contraint, on est encadré par la loi française et européenne. Donc ce qui est illégal suivant la loi, c'est pas censé rester sur le site, donc la modération va aussi intervenir pour enlever ce qui est manifestement illégal, par exemple. Et après, il y a des choses qui relèvent de ce qu'on voudrait pas, enfin de ce qu'on veut pas, mais qui sont un choix du site ou de l'équipe. On évoquait précédemment là qu'on a tout bon, c'est les règles d'une instance de dire, nous, il y a certaines choses qu'on veut pas sur notre, on veut pas chez nous, parce que ça nuit à l'ambiance du site. Par exemple, on va dire, on aimerait bien que les gens ils échangent poliment entre eux, ils respectent des règles de politesse et qu'ils s'injurient pas tout le temps, parce que même si ça pourrait rester dans le cadre légal, c'est quand même problématique si tous les gens qui s'injurient en permanence. Ou on voudrait éviter que des gens flirtent trop avec les limites de la légalité, par exemple que les gens restent trop en... Ils vont pas dire qu'ils aiment pas telle catégorie de la population, mais ils vont le sous-entendre. Et donc, c'est probablement pas illégal, mais en fait, peut-être que la politique du site va dire non, nous on n'a pas envie d'avoir des gens qui font volontairement des sous entendus ou qui vont jouer avec les limites de la légalité. Il y a ce type de cas-là qui relève plus d'un choix de l'instance. Au final, c'est quelle ambiance et quel type de comportement j'accepte ou pas sur le site que je gère. Et après, il y a un autre cas qui est un peu différent, qui est les cas un peu tout ce qui est un petit peu déconcertant. Des gens qu'on comprend pas trop ce qu'ils sont en train de dire, on comprend pas pourquoi. C'est un cas un peu atypique, mais c'est comme quand vous croisez une personne qui est hallucinée dans la rue, elle vous dit quelque chose que vous comprenez pas du tout, il va bien falloir en faire quelque chose. Donc la modération peut dire, est-ce que j'interviens dans ce cas-là, est-ce que j'interviens pas, est-ce que je dois protéger cette personne, parce que peut-être qu'elle va se faire entre guillemets lyncher par les autres, qui vont se moquer d'elle, etc. La modération peut aussi se poser des questions qui sont est-ce que je protège les faibles, entre guillemets, est-ce que je dois protéger les gens les plus vulnérables. Donc il peut y avoir ce genre de cas dans la modération aussi.
Entendu, merci, c'est très clair. Anna, comment tu envisages toi cette question ?
Benoît l'a très bien expliqué, mais peut-être que quand je raconterai, je dirais que je suis modératrice sur un réseau social, ça veut dire qu'il y a des gens, des fois ils voient du contenu qu'ils estiment problématique, qui me le signale, et que moi, avec le reste de l'équipe de modération, je décide ce qu'il faut faire de ce contenu. Est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le garde pas, et si on le garde pas, est-ce qu'on explique à la personne ou pas pourquoi on le garde pas, et que tout ça, du coup, ça nécessite de se mettre d'accord en amont sur des règles et de pouvoir rediscuter de ces règles tout le temps, parce qu'évidemment, on pose des bases, mais ensuite, à chaque contenu un peu... créatif, on va dire, on est un peu, on peut être perplexe et se demander du coup si jamais c'est quelque chose qu'on garde pas, si on rentre en communication avec la personne en lui disant on garde ce contenu mais merci de ne pas le réitérer ou des choses comme ça.
Déjà, ce que j'entends de vous deux, c'est on voit la part de l'échange aussi avec les personnes qui postent, qui vivent un petit peu sur les, que ce soit sur LinuxFR ou sur les services Framasoft, et l'importance que ça peut avoir. Alors aussi, ce que je remarque, c'est que la modération, c'est pas juste appliquer la loi et d'agir en fait par rapport à ce que vous impose la loi sur des contenus qui seraient illicites et ainsi de suite. Peut-être sans forcément y passer beaucoup de temps, mais je pense que c'est un peu central à la question, c'est penser un petit peu au régime de responsabilité, puisque vous êtes des intermédiaires techniques, je pense que vous rentreriez dans cette catégorie, tant LinuxFR que Framasoft à travers les services. Alors peut-être rappeler très rapidement qu'en gros, en tant qu'intermédiaire technique, le régime de responsabilité va distinguer les hébergeurs, qui ont un régime de responsabilité allégé, ce qui sont pas, ils n'ont pas à connaître de ce que poste publient leurs utilisateurs et utilisatrices, et les éditeurs qui, eux, ont une responsabilité directe sur le contenu qu'ils publient, puisqu'ils ils savent ce qu'ils publient de fait. Et alors, j'ai l'impression, donc en gros, la responsabilité de l'hébergeur pourra être engagée, pardon, s'il n'a pas promptement retiré un contenu manifestement illicite, comme l'a mentionné Benoît, qui lui aurait été signalé, et l'éditeur, lui, sera donc directement responsable. Alors, on imagine pour Framasoft que, là, bon, il n'y a pas trop question, hein, vous êtes des hébergeurs, vous avez pas, voilà, vous devez uniquement agir si en cas de signalement d'un contenu illicite. J'ai l'impression que peut-être, tu me corrigeras Benoît, mais j'ai l'impression que pour LinuxFR, il y a peut-être un peu des deux. Enfin, c'est peut-être moins clair.
Oui, je pense qu'il y a un peu des deux. Parce que le statut d'hébergeur, c'est je fournis des moyens à d'autres gens de s'exprimer, mais je n'ai pas besoin de savoir qui ils font. On ne présuppose pas que je sais ce qu'ils font, en fait. Donc, ça pourrait être le cas pour les contenus qui sont non modérés, a priori, chez nous. Rien ne dit qu'on est au courant de ce qui est publié chez nous dans ce cas-là. A contrario, quand on voit passer, quand il y a un contenu qui est modéré a priori et qu'en plus il est édité par une équipe, par l'équipe de modération elle est courant de ce qu'il y avait dans le contenu, donc en fait elle s'engage en le publiant. Et du coup là, on a plus un statut d'éditeur dans ce cadre-là. Et donc on peut devenir, on a plus de responsabilité d'un point de vue juridique là-dessus.
D'accord.
Donc nous on arrive à faire les deux entre guillemets, puisqu'on peut avoir un contenu qui est publié sous forme d'entrée de blog, là, de journal par un utilisateur. Donc là on serait plutôt simplement hébergeur, mais en fait on prend ce contenu, on le convertit en dépêche, on va potentiellement l'enrichir, ensuite on le publie. Du coup là on est devenu éditeur. Et le fait aussi de permettre des commentaires sur tous les contenus, indirectement, ça peut créer aussi une responsabilité. Je pense que dans le principe de la loi de l'hébergeur, il n'est pas responsable du fait que des gens aillent commenter sur chaque site de chaque personne. Sauf que là, nous, tous les contenus, ils sont commentables par tous nos utilisateurs, et du coup, il y a de toute façon une responsabilité qui vient du fait que tous les contenus sont commentables, tous les contenus sont éditables, et que il y a aussi une responsabilité qui intervient sur le fait de pouvoir étiqueter ou de pouvoir commenter un contenu. Donc, je pense qu'on est effectivement, suivant les cas, la responsabilité est différente pour le cas de LinuxFR.
Entendu. Mais du coup aussi les choix de manière de modérer, du coup si je l'entends bien, plutôt en posteriori, renforce peut-être votre responsabilité, mais participe aussi au fonctionnement et à la communauté que vous créez dans LinuxFR.
L'inverse, si je comprends bien. Quand tu modères a posteriori, en fait, on peut dire que tu réduis ta responsabilité parce que tu attends qu'on te signale le problème pour intervenir, ou tu t'en saisis toi-même, mais disons que si tu le fais pas, on peut pas te le reprocher parce qu'il y a que quand on t'a notifié que t'es censé être au courant qu'il y a un problème.
Oui, tout à fait.
Si je fais un commentaire problématique, je peux dire, j'étais pas au courant. Que ce soit vrai ou pas, hein, mais en tout cas, légalement parlant, on peut pas savoir si j'étais au courant ou pas. Alors que quand l'équipe de modération elle a mis son tampon, qu'il y a quatre modérateurs qui ont dit oui, je suis pour la publication, c'est facile de prouver que l'équipe était au courant, et donc là, ta responsabilité, elle est plus engagée, en fait.
Tout à fait, oui, je me suis bien exprimé, c'est très clair comme réponse. Alors du coup, comment vous organisez matériellement la modération, et puis comment vous établissez aussi les règles sur lesquelles vous basez vos modérations? Alors, il me semble que dans les deux cas, elles sont publiques, en tout cas sur LinuxFR, j'en suis persuadé. Comment voilà, vous les décidez? Est-ce que vous les faites vivre, ces règles? Sont-elles publiques, notamment? Benoît, si tu veux rester dans ta lancée.
Alors, c'est important que les règles soient publiques. Ça reste des choses qui évoluent. ça évolue pas forcément aussi vite qu'on le voudrait ou qu'on arrive à le formaliser. C'est pas non plus entièrement formalisable, parce qu'il y a quand même des choses qui relèvent de l'humain et de l'interprétation. Et pas pour donner un exemple, quand quelqu'un poste un commentaire, et le commentaire peut très bien être à double sens, volontairement ou pas, de la part de celui qui l'écrit. Par exemple, on pourrait avoir une lecture qui est très agressive du commentaire et une autre qui est une lecture humoristique du commentaire. Et en fait, la modération ne peut pas forcément savoir quel était le sens voulu, si c'était voulu ou pas par l'auteur, et quelle interprétation et qu'est-ce qu'elle doit en faire. Elle peut réagir quand même, mais ça va changer l'interprétation qui est faite et comment elle va réagir. Donc, ça peut pas être on n'est pas des machines, entre guillemets, c'est pas un algorithme, c'est la modération, il y a une partie humaine d'évaluation. Et du coup, ça va dépendre aussi, je sais pas, du passif de la personne. Est-ce que c'est toujours le même pénible qui publie des contenus problématiques? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui contribue beaucoup d'habitude et peut-être que là, il s'est mal exprimé? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui, actuellement, parce que c'est la période de pandémie, il a personnellement plus de problèmes et qu'il était plus énervé à ce moment-là? Ou, bref, il y a tout un côté humain qui intervient et donc, les règles, elles aident à cadrer les choses. Mais elles ne vont jamais définir avec exactitude et précision là où on met les virgules et quels sont les caractères autorisés, etc. Ça reste l'interprétation de l'équipe de modération.
Entendu.
Pour encadrer ça, après, on a des règles et on échange entre nous, soit via des listes, soit via le site. Il y a les cas triviaux, donc ce que je disais tout à l'heure, éliminer la pollution, c'est trivial. Si je vois un texte qui est écrit en coréen sur le site, je sais que c'est de la pollution, je vais l'enlever immédiatement, je n'ai pas besoin de l'avis des autres. Quand il faut commencer à manier les ciseaux et à dire on va toucher à tel contenu ou l'enlever ou dépublier des choses, etc., c'est plus délicat et on essaye d'avoir l'avis de plusieurs personnes et de prendre un peu de temps parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir des réactions extrêmement rapides. Ça dépend des situations. Si on veut éviter que ça dégénère d'un point de vue strictement de l'ambiance du site, ça peut être important d'agir vite. Si on veut modifier des choses, éditer un contenu, découper une phrase par exemple, c'est beaucoup plus délicat. Et ça, c'est mieux que l'équipe en discute et qu'on soit d'accord sur pourquoi on le fait, quelles sont les raisons et que tout le monde soit d'accord.
Super. Enfin,
tout le monde, en tout cas, qu'on arrive à un consensus.
Ok. Et comment s'organise côté Framasoft?
Alors, côté Framasoft, on a ce qu'on appelle un comité modération, c'est-à-dire qu'il y a des membres qui ont dit qu'ils avaient envie de participer à la modération des contenus. Après, on a tous un peu nos spécialités, et on a un canal Framateam qui s'appelle Modération, sur lequel quand il y a des choses, on partage des liens en disant, ben voilà, il se passe telle chose, il y a tel type de contenu, est-ce que vous pouvez me donner votre avis? Donc par exemple, sur Framapiaf, les personnes, elles peuvent nous faire des signalements, donc ça veut dire que quand on a un signalement qui est fait, on reçoit un mail sur le mail de la modération, et ensuite soit, effectivement, exactement comme dit Benoît, ça c'est trivial. C'est du spam, c'est un compte publicitaire ou un compte, par exemple, quelque chose qu'on n'accepte pas sur Framapiaf, c'est la pornographie qui soit pas floutée. Donc du coup, des choses comme ça, on va pouvoir très rapidement les gérer. Et ensuite, il y a tous les cas qui prennent immensément plus de temps. C'est ceux où on n'est pas sûr, il y a sujet interprétation, et même s'il n'y a pas sujet interprétation, une fois qu'on a compris le contexte, parce que nous, c'est des poètes qui nous sont signalés. Ça veut dire que c'est des contenus qui sont assez courts. On appelle ça du microblogging, donc c'est limité à 500 caractères. Parfois, c'est une vidéo, parfois, c'est une image. Et en général, ce poète, il n'est jamais suffisant en lui-même. Donc, il va toujours falloir aller chercher le contexte autour, parce que, exactement comme a dit Benoît, en fait, un commentaire ou un poète, ça peut être pris... À double sens, peut-être que la personne elle fait une sorte de renversement de situation, ou peut-être qu'elle est vraiment agressive, peut-être, enfin il y a plein de choses comme ça, et donc on est obligé à chaque fois d'aller parcourir tout le contexte. Une fois qu'on a parcouru tout le contexte, on peut proposer un type d'action, et si jamais on n'est pas tout à fait sûr de nous, on en parle avec les copains en écrivant sur le channel modération, en disant voilà, il y a telle situation, voilà ce que j'ai compris du contexte, voilà l'action que je vous propose, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce qu'on fait ça, est-ce qu'on fait pas ça. Et ensuite, du coup, il y a un peu un temps où les autres personnes, puisqu'on est beaucoup de bénévoles, parce que les pauvres salariés de Framasoft, ils ont déjà suffisamment de travail. Et donc, du coup, même s'ils aident quand même pour la modération, et du coup, il y a un temps comme ça où chacun donne son... Enfin, plusieurs personnes donnent leur avis, et si jamais on arrive à un consensus, assez rapidement, on met l'action en place. Et si jamais c'est un peu plus long, en général, on élabore une réponse à plusieurs des choses comme ça pour aller contacter l'utilisateur, même si ça reste assez rare. C'est-à-dire que ça demande tellement d'énergie d'aller expliquer quelque chose à quelqu'un que c'est quelque chose qu'on essaye un peu de repousser parce que ça, en fait, vous voyez tout ce contexte-là, c'est pour commencer à écrire la première réponse, mais si la personne elle nous répond, elle comprend mal ce qu'on a voulu lui dire, on va devoir lui répondre, et là ça prend beaucoup plus de temps et d'énergie. Donc comme on est bénévole et que notre énergie est limitée, on essaye de pondérer les choses en essayant de privilégier les actions qui sont rapides, mais parfois les actions qui sont rapides, c'est des actions qui ont beaucoup de conséquences, donc la suppression d'un compte ou quelque chose comme ça. Donc quand on estime que c'est pas légitime et qu'il vaut mieux rentre en communication avec la personne, et on est toujours avec notre énergie limitée dans la balance.
Et oui, prendre soin de soi, prendre soin des autres, et je pense que particulièrement cette période, c'était très important. Et je pense que on prendra le temps d'en discuter peut-être après la pause de cet aspect, du poids qu'on imagine peut-être potentiellement lourd pour les humains qui sont derrière, parce que c'est des humains qui modèrent. Avant, j'aimerais peut-être juste pour qu'on ait une idée en termes d'ordre de grandeur, pour qu'on puisse se rendre compte. Alors si je comprends bien, on pourrait d'avoir d'un côté ce qui va relever de l'évident. Le facile à modérer, donc vous parlez du manifestement illégal, le spam, etc. Et puis tout ce qui l'est moins et qui nécessite davantage de jugement, notamment de jugement collectif, qu'on pourrait peut-être traduire un peu par la zone grise. En termes de volume relatif et puis global de ces deux, si on distingue c'est la part évidente et la part plus délicate, ça représente quoi côté Framasoft par exemple, si c'est quantifiable d'ailleurs?
C'est vraiment difficile de quantifier parce que c'est vraiment aléatoire dans le temps, c'est-à-dire qu'il y a une semaine où on peut passer 2-3 heures parce que tout le monde s'est envenimé et du coup il y a eu beaucoup de contenu. Et puis là par exemple, ça fait plusieurs semaines qu'il n'y a pas eu de nouveaux signalements, donc c'est assez aléatoire, ce qui permet pas du coup d'anticiper facilement. Et comme on a donc ce que tu as dit tout à l'heure, c'était un peu faux. On a fermé les inscriptions à Framapiaf assez récemment, donc allez plutôt sur le stand de l'April, pas du tout, sur l'instance de l'April pour vous inscrire. Mais du coup, comme on n'a pas de nouveaux entrants, en fait, on a montré la porte de sortie à ceux qui étaient pénibles, peut-être que ça permet de minimiser le taux de modération, en tout cas des gens qui sont chez nous, parce que même si on modère toujours les contenus qui sont ailleurs, ça demande moins d'énergie que de gérer les personnes qui sont inscrites chez nous. Donc voilà, donc des fois c'est 2-3 heures dans une semaine, des fois pendant plusieurs semaines il n'y a pas trop de travail, puis ça revient, c'est un peu dans ces ordres de grandeur là.
Entendu. Et c'est vrai, venez donc sur le Chapril ou sur d'autres instances, parce que c'est vrai que nous, on n'a pas ce problème, parce qu'on a beaucoup moins, de personnes connectées sur le Chapril. Et c'est aussi ça l'intérêt d'un réseau fédéré, c'est de se partager la charge. Et on voit que c'est très important. Si vous tenez à Framasoft, venez aussi chez les instances amies. Côté Linux, est-ce que tu saurais un peu nous donner un ordre de grandeur, Benoît?
Alors, dans les nouveaux comptes créés, on enferme plus d'un tiers. Entre un tiers et deux tiers des comptes sont presque fermés à la création parce que c'est des comptes pour du spam uniquement. Et donc une grosse partie du travail, c'est virer le spam, la pollution et tous les gens qui viennent lui faire du placement de liens. Aussi parce que c'est les plus sournois. C'est des gens qui vont placer un lien caché dans un point ou une virgule, par exemple, ou qui vont dupliquer des commentaires pour utiliser le texte de quelqu'un d'autre pour placer un lien de publicitaire. Donc c'est une lutte permanente pour s'outiller, pour détecter, pour lutter contre ça, mais c'est la plus grosse partie du travail, entre guillemets. À côté de ça, ce qui est manifestement illégal, ça représente quasiment rien, c'est très très rare. Et puis après, t'as des cas un peu sporadiques, si t'as des discussions qui partent, qui vont être très limites, ça va être très localisé à un endroit donné. C'est-à-dire tout va être regroupé au même endroit et ça va être ponctuel, mais n'empêche qu'il va falloir intervenir dans cette zone-là, le détecter et aller intervenir. Et bon, là, ça rejoint un peu le côté, le point qu'on évoquait tout à l'heure sur l'énergie, c'est c'est reparti, il va encore falloir endosser sa casquette de modérateur et aller se lancer dans la bataille pour aller rappeler les règles, expliquer aux gens que là, c'est en train de partir en vrille et intervenir dedans et prendre des décisions et tout ça. voile-là qui va arriver. Et c'est pas la plus grosse partie, mais c'est la plus lourde à gérer pour les humains de la modération. Virer du spam, c'est facile, ça coûte pas grand-chose, c'est pénible. Il y en aura tous les matins quand je vais me connecter. C'est pas le même poids psychologique pour l'équipe de modération.
Oui, on imagine bien. Et bah, on va y revenir justement, mais je vous propose avant ça de se reposer un peu, de souffler. Nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter une interprétation de l'été des 4 saisons du Vivaldi par Daniel Bautista. On se retrouve dans 3 minutes. Une belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
Écoutez l'été des 4 saisons de Vivaldi, une interprétation de Daniel Bautista, disponible sous licence Libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions, CC by SA. Alors, nous allons poursuivre notre discussion. Je suis Étienne Gonu de l'April et nous échangeons avec Benoît Cibot, directeur de publication du site linuxfr.org et membre de son équipe de modération, et Anna, membre et modératrice au sein de Framasoft, sur le difficile exercice de la modération. Et nous parlions justement avant la pause de l'impact psychologique qu'on imagine potentiellement important sur les personnes qui gèrent cette modération. Alors Benoît, justement, tu en parlais, et Fred qui échange avec nous sur le salon, le chat sur le salon Libre à vous sur le chat. Excusez-moi, le chat de la radio Cause Commune, pardon. Donc Fred se posait notamment la question au sein de la composition de l'équipe, voilà, si elle était pour les que ce soit côté Linux FR ou Framasoft, est-ce qu'elle est stable, est-ce qu'elle bouge beaucoup, et puis comment vous gérez la fatigue qu'on imagine possible, la gestion des contenus durs, l'aspect psychologique. Donc Benoît pour Linux FR, Benoît Cibot.
L'équipe, elle bouge pas assez vite dans le sens où c'est toujours la problématique classique des bénévoles, de réussir à renouveler ses bénévoles, et petit à petit, on voit que des bénévoles deviennent inactifs petit à petit, donc réussir à les renouveler. Ça, c'est toujours un problème en soi dans l'absolu. Après, on peut perdre des modérateurs parce que effectivement, il y a plus de pression psychologique entre guillemets pour eux. On pourrait aussi dire que notre équipe manque de diversité, ce qui est vrai de ce point de vue-là, clairement. Donc c'est jamais facile de renouveler, et puis c'est surtout pour des questions de diversité par exemple, comment on renouvelle une équipe, comment on s'assure d'avoir une équipe qui va représenter correctement soit le lectorat du site, soit le lectorat qu'on voudrait avoir pour le site. C'est pas forcément la même chose. Plus le fait que effectivement il faut gérer tout ce qui est doute et lassitude de l'équipe. Parce qu'une équipe de modération, c'est il faut prendre des décisions, quelles que soient les décisions qui sont prises, il y a des gens qui trouveront qu'on va trop loin, pas assez loin, qui ne sont pas d'accord, qu'on aurait fait autrement. Que ces gens aient une expérience ou pas de la modération et donc qu'ils soient capables de se mettre à la place d'une équipe de modération ou pas, dans tous les cas, c'est toujours l'équipe de modération qui va devoir prendre des décisions et les assumer. Derrière, être ceux qui assument le fait que la décision a été prise et devoir gérer ça. De devoir gérer le fait que peut-être qu'on met trop de règles ou peut-être qu'on met pas assez de règles. Donc, il y a pas mal de doutes dans une équipe de modération, normalement. Potentiellement un sentiment d'isolement. Là, on peut dire que la période de pandémie actuelle aide pas trop. Il n'y a pas beaucoup d'événements et on croise moins les gens. Donc, ça aide pas trop aussi pour échanger sur les sujets. Et puis, de temps en temps, il y a quelques sujets lourds qui sont plus lourds à gérer pour le moral. Au fur et à mesure des années, donc ça fait un moment que je fait partie de l'équipe du site, on a quand même, ça a beau être ponctuel, on peut avoir des sujets qui sont très lourds, qui arrivent depuis du temps. Alors dans les cas classiques, il y a la gestion des décès, par exemple. Donc l'équipe de modération va intervenir parce qu'il faut fermer des comptes, il faut gérer des choses, ou même il faut s'assurer que quand on fait une nécrologie d'une personne, il n'y a pas des gens qui viennent faire des commentaires pourris en dessous d'une nécrologie, ce qui n'est jamais très agréable. Mais il y a des cas qui sont beaucoup plus problématique. On a eu un cas de revenge porn, on a eu des accusations de pédopornographie. Bon, ça, c'est compliqué à gérer. De l'injure et de la diffamation, c'est jamais sympathique. Intervenir entre des gens qu'on connaît qui sont en train de se disputer, c'est pénible aussi. Je sais pas, gérer des mises en demeure, ou même gérer des cas de folie, quoi. Quand on a eu des visiteurs sur le site qui étaient, pas à moi de faire les diagnostics, hein, mais quand quelqu'un me dit qu'il est capable de faire qu'il a un business model en milliards de milliards de dollars, je me dis qu'il est quand même bien halluciné. Ou on a eu aussi une personne qui était l'ambassadeur pour les extraterrestres, par exemple. Donc il y a tout ce genre de cas qui peuvent arriver, et donc des fois c'est marrant, des fois c'est juste pénible et lourd pour les gens à gérer. Ça fatigue les gens psychologiquement.
Oui, on imagine. Et je vais en profiter pour signaler, je pense, un billet que vous avez publié sur Linux FR et qui, je trouve très intéressant. Vous dites quelques mots sur la difficile exercice qu'est la modération, parce que vous avez dû bannir pour la première fois de votre histoire un utilisateur. On mettra le lien de ce billet collectif. Donc, je vous invite vraiment à lire, ça se lit très vite. Tu voudrais en dire deux mots ou je pense que tu viens de dire en fait tout à peu près tout ce qui est contenu, mais si tu veux en dire deux mots, je t'en prie.
Là, c'est un cas d'une personne qui revient et s'acharne à persister sur le site, puisqu'on a viré quand même 40 comptes différents, puis une quarantaine de comptes différents au fur et à mesure du temps. Donc, elle a beau sentir qu'elle n'est pas la bienvenue sur le site, avoir l'équipe de modération qui intervient, qui retire des contenus, elle se maintient sur le site en recréant des comptes, en revenant en permanence. Il y a une sorte d'acharnement et l'équipe finit par le vivre comme un harcèlement. Sans parler du fait que les commentaires qui étaient postés par cette personne étaient problématiques en eux-mêmes. On avait des contenus qui étaient soit d'un côté ou de l'autre de la frontière sur l'antisémitisme, le révisionnisme, etc. Donc il y avait des choses assez lourdes à gérer. Et donc des fois on en a nettoyé, des fois on a laissé en hésitant, c'était pénible à gérer, et ça nous apporte strictement rien à part un poids d'avoir ça à gérer. Et donc à un moment on a dit stop, il y a un moment où c'est pas à nous de mettre en place non plus des choses pour empêcher une personne de revenir à l'infini, parce qu'on ne peut pas. Quand quelqu'un se connecte sur le site, j'ai pas sa carte d'identité sous les yeux, donc je sais pas si c'est toujours la même personne ou pas. J'ai pas les moyens techniques de le faire, et donc à un moment on a dit bon, on considère que c'est du harcèlement, on dit à la personne de pas revenir, on lui a dit plein de fois, si elle continue, on confiera ça aux autorités, parce que il y a un moment où ça dépasse les capacités de l'équipe, et ce que je peux gérer seulement une équipe de modération. Et quelqu'un, là, ben, on passe un nom aux autorités pour dire, voilà, là, on aura un cas de harcèlement, et à vous de jouer maintenant.
Puis d'équipe bénévole, hein, je pense que il me semble important de le redire. Et ce qui me fait penser, d'ailleurs, je pense que ça en dit beaucoup sur la qualité de votre travail, de n'avoir que ce soit que la première fois depuis les années de service de LinuxFR que vous en soyez venu à bannir un utilisateur. Et je pense que c'est vraiment ça en dit long, voilà, sur la qualité de votre travail. Anna, côté Framasoft, comment voilà vous gérez un peu j'imagine que vous prenez vous aussi une certaine charge psychologique, une certaine charge mentale. Comment vous gérez ça? Est-ce que ça bouge beaucoup aussi au sein de votre équipe de modération?
Alors, je pense qu'on peut distinguer deux temps par rapport à la modération dans Framasoft. Il y a eu un temps où c'était beaucoup porté par les salariés comme une tâche parmi d'autres. Et en fait, on a eu beaucoup de retours sur Mastodon notamment de personnes qui estimaient que la modération n'était pas suffisante. Ça a pris pas mal d'ampleur. Ça a commencé à être vraiment très lourd pour les salariés, parce que ben quand on est modérateur, on a toujours peur. Enfin, c'est pas un travail qui est très gratifiant vu de l'extérieur, et on est toujours critiqué, et donc la charge a été assez lourde pour les membres salariés qui ne faisaient pas que ça d'ailleurs. Et donc à un moment, il y a des personnes bénévoles et notamment moi qui ont pris le sujet à bras le corps et qui ont dit ok, bah du coup on va faire une charte de modération et puis on va s'appuyer dessus pour pouvoir modérer les contenus des personnes, parce qu'on n'avait pas vraiment de charte de modération. Donc du coup, c'est tant qu'on n'a pas posé de règles, et ça repose, les choix, ils reposaient davantage sur les individus, et donc enfin sur les individus, c'est-à-dire sur les membres salariés qui devaient faire un choix, et c'était vraiment compliqué. Donc voilà, on a posé des règles, dont des règles qu'on a choisies sujette à débat, c'est-à-dire que par exemple on a dit si jamais ce sont des blagues qu'on considère oppressives, même si vous dites que c'est des blagues, nous on considérera que c'est pas drôle par exemple, et donc on part du principe qu'on pourra modérer, ou autre chose qui est si jamais vous nous prenez trop d'énergie, on se garde le droit de vous faire aller voir ailleurs, par exemple des choses comme ça qui du coup n'ont pas de fondement facilement tangible, c'est-à-dire que l'énergie c'est quelque chose qui fluctue. Mais ça nous permet du coup de plus facilement, quand on a quelqu'un qui est sur le fil à plusieurs reprises, ou qui nous prend beaucoup d'énergie pour trancher d'un côté ou de l'autre, et ben on finit par trancher du côté qui nous prendra moins d'énergie dans le futur, en disant non mais là c'est bon, il est trop pénible, donc on va lui inviter à aller voir ailleurs, parce que si jamais on ne le fait pas maintenant, en général plus tard la personne elle sera resignalée pour d'autres contenus et ça va nous reprendre de l'énergie. Donc ça c'est le fonctionnement que... on a maintenant, en s'appuyant sur la charte. L'équipe de modération, du coup, elle a été enrichie de membres bénévoles et elle fonctionne, elle est plus variée. Et pour gérer la charge un peu difficile, ben c'est pas toujours facile. Des choses qu'on a mis en place récemment, parce qu'on a une personne qui fait une thèse sur le fait divers, donc du coup c'est une espèce de constellations de réseaux sociaux dont Mastodon fait partie, et notamment sur la modération. Et du coup, pour pouvoir lui montrer le travail de modération, on a commencé à faire des visio-modérations. Donc en gros, dans ce cas-là, je dis du coup rendez-vous à telle heure, et on fera les signalements sur Framapiaf, et il y a d'autres personnes parfois qui se connectent, et c'est beaucoup plus sympa, parce que voilà, ça dédramatise en fait. On lit les choses, des fois c'est affligeant. Des fois, c'est un peu rigolo, mais devant son écran, ça serait beaucoup de charge. Sauf que là, il y a les copains à côté pour, soit pour rigoler, soit pour prendre une décision en commun pour que ce soit plus rapide. Donc ça, c'est vraiment chouette. Cela dit, à un moment, du coup, vraiment, vraiment compliqué, qui fait que, je crois pas qu'on l'ait dit, mais là, j'interviens sous pseudo, parce que il y a une, une période qui a été vraiment difficile, c'est le moment où on a sorti la charte de modération. Donc, vous, pour vous remettre le contexte, il y avait beaucoup de critiques sur le fait que notre instance Mastodon n'était pas assez modérée d'après des utilisateurs d'autres instances. Et donc, au moment où on sort la charte de modération pour dire, ben voilà, comment on va essayer d'agir, comment prendre les choses, je pense qu'on a il y a eu des problèmes de communication par rapport à cette charte qui ont provoqué des interprétations très diverses et qui ont fait que des communautés qu'on comptait mettre en avant pour les protéger, c'est-à-dire que on n'est pas à égalité sur les réseaux sociaux selon les catégories de population dans lesquelles on est, c'est-à-dire que si on est une femme, on n'est pas à égalité avec les hommes, si on est des personnes queer, si on est des personnes handicapées, on n'est pas à égalité dans le sens où on va se prendre plus facilement des remarques, des explications, des choses un peu lourdes. Et donc cette charte, elle avait notamment pour vocation de remettre les choses à plat en disant si jamais il y a des comportements problématiques envers des groupes qui subissent des oppressions, on sera vigilant à ça. Et même si on facilitera la discussion ou l'explication de personnes qui comprennent pas cette problématique, le but c'est d'être attentif à ce que tout le monde se sente bien, quoi, et notamment les minorités oppressées. Ça a été compris complètement à l'inverse, et du coup on s'est pris plusieurs jours de grosses. Enfin, je pense qu'on peut appeler ça du harcèlement, c'est-à-dire que c'était contre l'équipe de modération, donc c'était pas directement à viser d'une personne, mais il y a eu un hashtag qu'on a appelé Dramasoft, et il y a eu beaucoup de monde qui a dit que ce qui se passait c'était scandaleux, qu'on allait accueillir des nazis sur l'instance et que ça nous poserait pas de problème si jamais il y avait des gens qui avaient des propos atroces envers des communautés. Et ça vraiment, ça a été le moment le plus compliqué. Il y a des personnes qui sont retirées de la modération à partir de là, des personnes même qui auraient pu, enfin, il y a des personnes concernées au sein de l'assaut qui ont pu être très attaquées par rapport à ça. Et ce qui nous a fait tenir, c'est quand même qu'au sein de l'association Framasoft, il y a une très bonne entente et il y a du soin. Et moi, en tout cas, c'est ce qui me fait tenir, c'est que ben voilà, je sais que au moins j'aurai du soutien quoi qu'il arrive à l'intérieur, que je fasse une bêtise ou que j'ai plus d'énergie, il y a toujours ce groupe de soutien qui permet de tenir quoi qu'il arrive et même parfois de voir du positif là où il y en a moins. Voilà.
Merci pour ce témoignage, en fait. Puis voilà, bah, je pense pour les personnes qui écoutent aussi, voilà, d'avoir l'esprit, la modération, c'est certes quelque chose d'important, ça peut avoir un impact sur ce qu'on va considérer notre liberté d'expression, mais c'est des humains derrière. C'est un exercice qui est compliqué à gérer, et je pense qu'il faut pas oublier, voilà, d'avoir un peu de bienveillance aussi envers les personnes qui sont derrière et qui sont peut-être à l'écoute si jamais vous avez des réflexions constructives à leur faire part. Et puis on vous envoie, que ce soit Linux FR et Framasoft, énormément de bisous et d'amour, parce que vous le méritez tous les deux. Alors, je pense qu'en fait, vous avez déjà pas mal passé là-dessus, mais je pense que la question est intéressante sur... alors, c'est vraiment clairement le cas côté Linux, et ça se produit en fait aussi côté Framasoft, sur cette idée que, sur Linux FR notamment, donc, vous cherchez à créer, enfin, vous créez via une communauté Linux FR. Et comment dans une communauté, bon, j'imagine qu'il peut y avoir des désaccords notamment, comment on gère, alors j'aime pas forcément le terme, mais comment on gère l'altérité dans ces cas-là ? Parce que entre ce qui va être l'échange acceptable, quoique tendu, et puis la ligne rouge qui serait dépassée, est-ce qu'une ligne rouge est facile à définir ? Sans doute que non. Voilà, comment est-ce qu'on décide, comment on intervient en tant que modérateur ou modératrice pour gérer un peu justement la possible altérité lorsqu'elle dépasse un certain seuil ? Benoît, du coup, si tu...
Si je demandais à on a discuté 3 heures de modération hier avec l'équipe, hein, si on faisait un sondage et qu'on faisait un petit questionnaire en disant est-ce que vous pensez que dans tel cas il faut intervenir, dans tel autre cas il faut intervenir, etc., et qu'on évacue un certain nombre de cas et qu'on demandait à chacun de l'équipe de modération, il n'y aurait pas le même résultat suivant chaque personne. Et en plus, je pense qu'il n'y aurait pas le même résultat si on faisait deux fois le sondage à 6 mois d'écart pour une même personne. Parce que les choix qu'on fait, ils peuvent dépendre de ce qu'on a déjà vécu, d'un contexte qui peut changer, de l'évolution de la société, de plein de choses autour. Donc c'est sûr que les lignes, elles bougent. Et même pour des choses tout à fait basiques, indirectement, la modération d'une personne, en tout cas, elle va dépendre de son humeur à elle et de ce qu'elle s'est levée du bon pied ou pas, ou est-ce qu'elle a une journée compliquée ou pas. C'est pour ça que c'est important que les décisions de modération soient pas forcément extrêmement rapides ou qu'elles soient pas prises seules. Et ça lisse un peu ce genre de cas. Non, il n'y a pas une, enfin, il n'y a pas une ligne rouge qui est claire et définie, sinon on pourrait automatiser les choses. Et je l'ai pas dit, mais on a une partie de modération avec un système de karma et qui s'autogère, etc. Mais faut pas rêver, c'est pas la technique qui va résoudre la problématique de la modération. Sinon, d'ailleurs, il n'y aurait pas d'émission et le sujet serait classé au niveau mondial. On aurait dit, voilà, les algorithmes vont tout régler, c'est fini. On sait que c'est pas le cas et qu'il faudra des humains pour gérer ça, et donc il faudra faire des interprétations, et les interprétations, ça veut dire que ça peut fluctuer. Et donc il faut essayer de veiller à ce que ça parte pas en vrille, sachant qu'il y aura toujours des sujets qui vont être... Enfin, il y a des sujets clivants, pour des bonnes et des mauvaises raisons, hein, mais il suffit qu'il y en a un qui parle d'une distribution de logiciels libres et que les gens soient fans d'une autre pour qu'ils commencent à discuter des avantages et des inconvénients de solutions. Soit parce que vraiment ils sont en désaccord, soit aussi parce que, en tout cas pour les Français, mais je pense que c'est assez vrai de manière générale, les gens ils aiment bien discuter. Et donc, ils vont chercher à défendre l'autre point de vue juste pour qu'il y ait un débat. Et donc, il y a des gens qui vont discuter et il faut juste que ça reste un débat. Quoi. C'est-à-dire que les gens, ils s'écoutent un minimum, ils se parlent correctement, qu'il y a un échange d'arguments et pas juste des commentaires désobligeants sur les gens en face, critiquant juste les points en face, etc. Ça reste fluctuant, forcément.
Oui. Oui, et en fait, c'est ce que aussi, ça s'argent ce que disait Anne avant, on s'inscrit dans des contextes politiques, les lignes bougent, comme tu le disais, et en fait, les lignes bougent, je pense que c'est très bien résumé. Et tu mentionnes, alors, je crois qu'Anna, en plus, tu souhaitais évoquer ce point, la question un peu de l'automatisation de la modération, l'idée de confier la modération à des algorithmes. Alors, c'est pas juste là un délire rhétorique, hein, on voit que c'est malheureusement de plus en plus présent dans certaines propositions. De loi, enfin projet de loi ou de règlement européen. Là, je pense en plein la loi Avia qui prétend supprimer la haine en ligne, une loi parfaitement liberticide qui a été heureusement censurée par le Conseil constitutionnel, mais qui appelait dans les lignes à automatiser un peu la modération. Est-ce que ça a du sens d'ailleurs, Anna, qu'est-ce que tu en penses?
Alors, du coup, merci beaucoup pour cette question. Ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est depuis que je suis modératrice, je vois l'importance, je vous racontais tout à l'heure, du contexte. Du fait qu'il y a besoin de faire beaucoup de recherches du contexte. On peut passer parfois une demi-heure, trois quarts d'heure à creuser, à regarder la vidéo, à voir les autres poètes de la personne pour comprendre de où elle parle, dans quel contexte elle se situe. Pour savoir si ce qu'elle dit c'est quelque chose de malheureux, c'est quelque chose d'assumé ou des choses comme ça. Et sur les réseaux sociaux plus centralisés, en fait, donc il y a d'un côté le fait qu'ils ont des modérateurs ou des modératrices, mais quand on voit les sujets d'investigation, par exemple, je me souviens, je crois, d'une émission d'Envoyé spécial qui racontait que les personnes elles avaient des temps très réduits, pas le droit de parler entre elles. Elle devait suivre des règles qui étaient vraiment très précises pour pouvoir modérer beaucoup de contenu. Ben, il n'y a pas ces histoires de contextualisation. Donc, ça me semble vraiment très difficile de faire de la modération correcte, sans parler évidemment du travail de ces personnes qui doit être absolument innommable. D'ailleurs, les personnes, elles leur racontaient elles-mêmes qu'elles finissaient par devoir démissionner, qu'elles avaient des séquelles psychologiques parce que c'est atroce comme travail, puisque ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est le collectif qui nous tient. Donc si jamais j'ai pas le droit de parler ni à l'extérieur ni avec les autres personnes de mon travail pour débriefer un peu et relâcher la pression, ben forcément les risques psychologiques sont assez élevés. Donc il y a ça d'un côté, et donc puisque les grandes plateformes elles se disent bon, ça nous demande vraiment trop de main d'œuvre de réussir à régler ces histoires de modération, donc on va essayer de mettre en place des algorithmes, ben ça donne des résultats qui sont assez surprenants. Donc je sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler de l'affaire liée au hashtag comment faire pour que les hommes arrêtent de violer. Donc c'est pour replacer du contexte, sur Twitter, il y a une militante féministe qui a repris les études sociologiques, qui disait c'est une immense majorité, sur les les personnes qui violent sont extrêmement majoritairement des hommes. Donc, comment faire pour que les hommes arrêtent de violer? Elle posait la question sous un angle sociologique de comment est-ce qu'on fait en sorte d'éduquer les personnes à ne pas commettre des actes atroces. Et elle a été son compte a été modéré, elle a été suspendue pendant un temps. Puis ensuite, quand Twitter a été interrogé sur le sujet, il a dit que c'était une erreur d'algorithme et que c'était pas censé se produire. Mais ensuite, quand elle est revenue et qu'elle a reposé la question, elle s'est fait ressortir. Et donc, il y a, à mon avis, un espèce d'énorme problème là, ou d'énorme plutôt malentendu, qui est que il y a une croyance de si jamais on avait de meilleurs algorithmes, on réussirait à faire de la meilleure modération. Déjà, je pense que c'est faux. Je pense que c'est pas une question d'algorithme, c'est une question de moyens et donc d'argent mis pour payer des personnes pour faire de la modération correcte, et donc pas dans des pays où les gens ils ont du mal à avoir du travail suffisamment rémunérateur, d'en profiter pour les exploiter pour faire ce travail. Mais il y a aussi le fait que ces plateformes elles fonctionnent sur un modèle économique qui est là pour provoquer, c'est-à-dire que sur Twitter, ce qui marche, c'est d'avoir du contenu. Pour avoir du contenu, il faut que les personnes elles soient engagées et qu'elles aient envie d'écrire. Et qu'est-ce qui fait que les personnes elles sont engagées? C'est quand je suis énervée, en colère, pas d'accord, voilà, des mécanismes comme ça. Et comment je fais pour pas être d'accord? Par exemple, j'encourage des gens qui créent du contenu qui va provoquer de la colère d'une partie de la population, ou des contenus extrémistes, plutôt d'extrême droite par exemple. Et donc voilà, c'est jamais, il y a une sorte de cercle vicieux où moi mon modèle économique, donc je suis Twitter, mon modèle économique c'est sur la création du plus de contenu possible, du coup je vais favoriser les contenus qui font générer encore plus de contenu, par exemple les contenus extrémistes. Sauf que du coup, ces personnes, elles vont pas être d'accord, elles vont se mettre en colère, ou va y avoir des choses qui vont être problématiques dans ce qui va être dit. Il va falloir le modérer, et j'ai pas les moyens de modérer. Ce qui fait que, à mon avis, le problème, il est pas seulement du côté de la modération ou d'avoir une meilleure modération, mais aussi d'avoir un modèle économique qui ne repose pas sur le fait que les personnes, elles soient engagées. Et donc, pour finir, sur ce point-là, parce que je suis un peu longue, à contrario, par exemple, sur Framapiaf, nous, les personnes, si jamais elles publient des contenus problématiques, et on leur montre la porte de sortie, puisqu'on n'est pas basé sur le fait que les personnes elles créent plus de contenu pour pouvoir payer cette instance. Et donc, d'encourager les modèles économiques qui soient différents, en montrant du doigt le fait que c'est le modèle économique de la plateforme qui provoque les problèmes de modération, et pas juste le fait qu'il n'y ait pas d'assez bons outils techniques, et même si les modérateurs étaient assez bien payés, je ne suis pas sûre que ça suffirait. Et donc de dire, mais c'est pas comment on fait pour que Twitter il ait une meilleure modération, parce que je pense que c'est pas possible. Ma conclusion, c'est que je ne pense que c'est pas possible, vu le modèle économique qu'ils ont, qui est là pour attiser et encourager la création de contenu.
Oui, c'est un problème systémique, quoi. Tu as bien fait de prendre ce temps, parce que je pense qu'il est, c'est important. Enfin, c'est un point essentiel en fait par rapport à notre sujet. Malheureusement, je vois que le temps file. Est-ce que vous, voilà, une minute chacun, peut-être un dernier mot, quelque chose sur un point que vous souhaitiez souligner, ou quelque chose qu'on n'a pas évoqué que vous aimeriez aborder, Benoît, peut-être.
On voit la complexité de la modération et les travers du législateur en ce moment, à vouloir des réactions extrêmement rapides et extrêmement automatisées. Je ne crois pas à une solution où on va remplacer les juges par des algorithmes et que ça va marcher magnifiquement. L'expérience que je peux avoir de la modération montre que ça ne marche pas. Et le cas qu'on évoquait, c'est que effectivement, nous, par exemple, on va avoir un modèle différent. J'ai des contenus polémiques sur le site. Ça m'attire pas plus de visiteurs, ça m'attire plus d'ennuis, ça m'attire plus de mise en demeure, ça fait plus de poids psychologique sur la modération, mais j'y gagne rien. Alors qu'effectivement, les sites qui sont basés sur attiser les conflits entre les gens pour avoir plus de commentaires ont effectivement des modèles qui sont, dans ce cas-là, problématiques. Et effectivement, je pense que c'est un point important dans la discussion.
Merci Benoît. Anna, une trentaine de secondes, une minute max, est-ce que tu as un point que tu souhaites souligner, une autre idée à soulever?
Oui, peut-être ça serait l'éloge de la lenteur, c'est-à-dire que entre les plateformes de microblogging qui nous permettent de nous exprimer seulement en 500 caractères avec une pensée du coup forcément tronquée, un encouragement à réagir rapidement et un encouragement du coup à ce que la modération réagisse rapidement, je pourrais peut-être inviter chacun à se dire mais si jamais on prenait le temps de choisir à quoi on répond, prenait le temps choisir est-ce que mon contenu il apporte vraiment quelque chose ou pas, et est-ce que si jamais j'ai besoin de modération, est-ce qu'il vaut mieux que les modérateurs ils prennent le temps de prendre une décision ensemble plutôt que de réagir dans l'urgence, sauf dans les cas où vraiment il y a quelqu'un qui est mis en danger, est-ce que ce serait pas plus pertinent?
Merci, je pense que c'est une très belle conclusion et paradoxalement, on doit finir cet échange faute de temps. Mais un grand merci à tous les deux d'avoir participé à cet échange. Je pense qu'il a été très instructif. Donc voilà, un grand merci à vous, puis bonne continuation et bon courage pour le délicat exercice de modération.
Merci. Merci beaucoup.
Alors nous allons à présent faire une pause musicale. Nous allons écouter Oh Boy par Who Are You Loutra Loutra. On se retrouve juste après. Je vous souhaite une belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune 93.1.
Then, with the daylight and your head on fire, now the dream is over. Do you remember? Books and see it's gone.
Écoutez Oh Boy par Who Are You Loutra Loutra, disponible sous licence Libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions, CC by SA. Alors visiblement, on a un problème de connexion téléphonique, ce qui peut arriver. Pendant qu'Adrien essaye de joindre Emmanuel pour la chronique à venir, je vais en profiter peut-être, on va inverser un petit peu l'ordre de présentation et je vais vous parler peut-être d'une annonce quoi de libre. Ce week-end, donc les 8 et samedi 8 et dimanche 9 mai auront lieu, un April Camp entièrement en distanciel étant donné le contexte sanitaire. Alors l'idée d'un April Camp est de réunir pendant deux jours, enfin de se réunir pendant deux jours entre membres et soutiens de l'April pour faire avancer des projets en cours, lancer de nouveaux projets. Alors, les projets peuvent être de nature technique, hein. Ça peut être des outils de communication, enfin ce qu'on a envie de faire en fait. Et tout le monde, membre ou pas de l'association, peut participer en fonction de son temps disponible, de ses compétences et de ses envies. N'hésitez pas à vous inscrire, hein. Il y a un bloc-notes dédié, hein. Vous retrouverez le lien sur le site de l'April. Ce qui est inscrire permet notamment de faciliter l'organisation, mais il n'y a pas d'impératif à le faire. Et puis vous retrouverez les thèmes de travail, l'ordre du jour, et puis n'hésitez pas à passer nous voir. Voilà, tous les liens intéressants seront sur l'April. Alors la régie me fait signe que c'est bon, et ben je vous propose donc de passer au sujet suivant. Alors, nous retrouvons aujourd'hui Emmanuel Reva qui nous avait proposé entre 2019 et 2020 plusieurs chroniques intitulées « It's it numérique » ou « Les râlages d'un vieux libriste », si je cite la première chronique qu'il nous avait proposée. Et Emmanuel revient exceptionnellement aujourd'hui pour nous parler de Peertube, un logiciel libre d'hébergement de vidéos décentralisé développé par nos amis de Framasoft. Salut Manu.
Salut.
À toi la parole. Ça va très bien, toi.
Eh bien, du coup, aujourd'hui, je vais parler de Peertube, que j'aime bien aussi appeler « Meilleur tube ». Vous allez comprendre pourquoi. Peertube, c'est une sorte de YouTube, mais fédéré. C'est un peu comme Mastodon par rapport à Twitter. Je sais pas pourquoi, j'essaie d'expliquer un truc en comparant avec un autre truc. Je reboot. Peertube est un logiciel libre de publication vidéo sur les interwebs. Ça se présente comme un site web qu'on peut installer soi-même sur son propre serveur. Bon, ok, ça demande quelques compétences, des ressources et du temps, mais c'est possible. Mais sinon, on peut aussi se créer un compte sur une instance existante. Peertube permet donc d'héberger et de diffuser des vidéos, de créer des chaînes, d'ajouter des sous-titres, etc. En gros, comme YouTube. Et même depuis peu, on peut faire des diffusions en direct ou live pour les francophones. Le petit bonus Maxi plus LOL, c'est qu'on peut fédérer les instances. C'est-à-dire, mon instance peut suivre ton instance et du coup, je peux voir tes vidéos depuis chez moi et vice-versa. J'ai presque envie de chanter ces... Non, je vais pas le faire. À condition que ton instance suive la mienne aussi. Ok, alors des fois, le mot fédération dans le contexte d'Internet peut paraître flou. Alors un exemple de fédération sur Internet que tout le monde connaît, les courriels ou email pour les francophones. Et oui, le système de mail est un système de serveurs totalement indépendants, mais qui travaillent ensemble pour livrer les courriels aux divers comptes éparpillés sur les Internets. Donc Peertube, c'est un peu comme si YouTube avait adopté un fonctionnement inspiré du courriel. Au passage, on appelle l'univers de la fédération sur Internet Fediverse. En tant que libriste intégriste qui aime regarder des images qui défilent très très vite, autrement dit des vidéos, je peux enfin m'offrir une expérience à la YouTube. C'est-à-dire, je peux m'abonner à des chaînes, commenter des vidéos avec des commentaires respectueux de préférence, hein, et aimer les contenus ou liker pour les francophones. Tout cela depuis un compte Peertube ou alors depuis un compte Mastodon. C'est compatible. Le fait divers est vraiment incroyable. D'ailleurs, il y a des gens qui n'y croient toujours pas. J'évite autant que possible de m'engager sur la YouTube. Je dis la YouTube car c'est grave. S'il faut vraiment que je regarde la vidéo du chat psychopathe possédé par Satan qui pousse des trucs de la table, alors j'ouvre le lien de la vidéo avec MPV ou VLC ou je vais sur un site miroir ou sinon je passe par Tor Browser. Bref, je mets un masque et j'applique du gel hydroalcoolique avant d'interagir avec l'outil de capitalisation de l'attention de Google. Grâce à Peertube, je peux enfin regarder des vidéos sur Internet sans protection. Car Peertube est compatible avec mon côté islamo-libriste. Alors, en tant que vidéaste du dimanche, jusqu'ici, j'ai publié les quelques vidéos que j'ai fait dans ma vie, je les ai hébergées sur mon site perso, enrobées de balises HTML vidéo, en gros, comme on fait avec une image. Ça veut dire que si jamais une vidéo devenait un peu populaire, je pouvais me retrouver avec l'accès à mon site ou serveur bloqué ou très ralenti, car la vidéo, c'est lourd, et donc ça peut vite saturer la connexion. J'ai pas les moyens et encore moins l'envie de surdimensionner mon serveur au cas où une vidéo soit regardée par plus de 10 personnes un même jour dans l'année. Chose qui, fort heureusement, n'est jamais arrivée. Entre en jeu la magie de Peertube. Elle fait appel à la connexion des visiteurs en pair à pair pour partager le transfert des données. C'est-à-dire, quand quelques personnes regardent une même vidéo, elles envoient des bouts de vidéo aux autres personnes qui la regardent aussi. L'audience devient une ressource de bande passante. On peut résumer, plus une vidéo est en train d'être regardée et plus il y a des ressources pour sa diffusion. Et quand plus personne ne regarde, les ressources sont éteintes ou font autre chose. Peertube est compatible avec mon côté islamo-écologiste. Il y a exactement 3 ans, j'ai installé une instance Peertube pour moi et quelques potes du coin. J'ai migré quelques vidéos à la noix, c'était une preuve de concept convaincant. Et puis il y a un an, j'ai fait mon premier vrai court film. On était tous bloqués à la maison et j'avais quelques conseils à partager. Eh bien, pas d'hésitation, j'ai mis sur le fait divers via mon instance Peertube. Et j'ai même pas peur du succès. J'ai eu environ 360 vues en un an, presque une vue par jour. C'est le début de ma reconversion. Bon, j'ai aussi publié un documentaire en décembre dernier qui a connu des pics à plus de 200 vues par jour. Et ça passe nickel. Ça n'a même pas cramé le fort réseau de mon serveur, ni même le data center qui l'héberge. J'ai même vu ma vidéo apparaître sur la page Tendance, ou Trending pour les francophones, de l'instance de Framasoft, qui est framatube.org, juste à côté d'une vidéo du collectif L'Extracteur. C'est très encourageant. Je me sens pas seul sur mon île. Je me sens faire partie d'un ensemble qui partage du commun. Peertube est compatible avec mon côté islamo-communautariste. Alors, comment on fait pour trouver des vidéos? Un bon point de départ est le site joinpeertube.org. Déjà, il y a d'autres explications, peut-être plus claires que les miennes, et même une vidéo explicative. En plus, on peut découvrir quelques contenus des chaînes et des instances même. Par exemple, il y a Skepticon, qui est une instance autour de la promotion de l'esprit critique et de la démarche scientifique. On y trouve pas mal de vidéastes qui ont commencé leurs activités sur la YouTube et se sont mis ensemble pour créer leur propre instance sur le fait divers. Il y a plein d'autres instances spécialisées comme celle de Debian, FDN, etc. Et après, il y a une page pour nous aider à trouver une instance avec des critères comme la possibilité de créer des comptes, les thématiques abordées, etc. Il faut garder en tête que chaque instance choisit de suivre ou non les autres, et on suivra plus ou moins. Alors, pour retrouver encore plus facilement les vidéos de la Fediverse, il existe un moteur de recherche spécial Peertube qui va chercher un peu partout dans la limite des stocks disponibles. Pour cela, direction le site sepiasearch.org. Évidemment, ce logiciel de moteur de recherche est aussi un projet libre. Avec tout ça, j'espère que vous comprenez pourquoi j'aime surnommer Peertube MeilleurTube.
Pour moi, ça me paraît très clair en tout cas. Merci beaucoup, Emmanuel. Et puis, à une prochaine, j'espère, pour une nouvelle chronique qui, ce coup-ci, du coup, n'était pas un râlage de vieux librisme, mais plutôt un enthousiasme pour un beau projet. Et je vois le temps qui file, donc je vais te souhaiter une très bonne fin de journée, Manu. Salut.
Merci, à bientôt.
Alors, nous approchons de la fin de l'émission. Nous allons terminer par quelques annonces. Alors je voulais déjà mentionner donc ce week-end un April Camp, hein, n'hésitez pas à venir nous faire un coucou, participer à un des nombreux projets de l'April, que vous soyez membre ou non, puis retrouver comme d'habitude tous les événements Libris ainsi que les organisations locales du logiciel libre sur l'agenda du libre.org. Alors notre émission se termine, je remercie les personnes qui ont participé à l'émission, Adrien Bourmeau qui en plus de son intervention est aux manettes de la régie aujourd'hui, merci à Isabelle Avani, à Benoît Cibot, à Anna, à Emmanuel Reva, merci également à l'équipe qui s'occupe de la post-production des podcasts, Samuel Aubert, Elodie Daniel Giraudin, Languin, Sylvien Kunzmann, bénévole à l'April, Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio. Merci à Quentin Gibaud, bénévole à l'April, qui découpe le podcast complet en podcast individuel par sujet. Vous retrouverez comme d'habitude sur notre site web april.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. La semaine prochaine aura lieu en direct le 11 mai 2021 à 15h30. Notre sujet principal portera sur WebASOC, une communauté de professionnels du web qui aide les associations et collectifs humanitaires de solidarité et d'environnement à se renforcer avec Internet et qui fonctionne complètement bénévolement. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 11 mai. Et d'ici là, portez-vous bien.